Notre prochaine invité, en général, ça faisait un bout de temps qu'on lui avait pas parlé, mais en général, quand on se parle, je finis plus nerveux après l'entrevue qu'avant. Parce qu'il va être question de ce fameux logiciel espion qui a été développé par une firme israélienne, mais qui a fait en sorte que des centaines de journalistes, de diplomates, d'activistes pour les droits de l'homme auraient été espionnés. Même le président français Emmanuel Macron était sur la liste des gens qui avaient peut-être été espionnés par ce
toi,
fameux logiciel.
Paul Raphaël Charon, c'était pas sur la liste.
Ah ben écoute, je sais pas là, mais...
Il ne pas prendre de chance sur les photos sur lesquelles il pourrait...
S'il m'avait engagé comme gouverneur général, je suis pas mal sûr que j'aurais été...
Mais
ça...
comme tu étais d'un candidat, peut-être qu'ils ont fouillé le passé des candidats un peu, pour être sûr qu'il n'y ait pas de scandale, tu sais.
On le sait pas, hein?
Oh, des fois.
Allons rejoindre notre expert en cybersécurité avant de dire plus de niaiseries. Steve Waterhouse est au téléphone. Bonjour, M. Waterhouse.
Bonjour, la gang.
D'abord, expliquez-nous donc comment ça fonctionne un peu, cette affaire-là, Pegasus, et c'est qui est derrière ce logiciel espion-là?
Et oui, Paul Raphaël, t'as bien raison. Ça n'est un type de logiciel qui va t'empêcher peut-être de dormir davantage. Puis je m'en excuse en avance. Là, tu m'as invité pour en parler, mais parlons-en parce que c'est un logiciel, justement. Je le qualifie d'une cyberarme. Une cyberarme, ça veut dire que c'est un moyen électronique pour être capable, à ce moment-là, de profiter et d'avoir un avantage sur des concurrents, mettons ça comme terme. C'est là 10 ans, c'est des anciens opérateurs de l'unité 8200 de l'armée israélienne, qui est la branche un peu de l'armée israélienne qui fait des cyberattaques et qui met des cyberopérations, qui eux autres, ben, la majorité en fait des start-up technologiques en Israël viennent justement de le service militaire et qui ça leur donne une petite longueur d'avance avec la recherche et développement faite dans le service. Et là, ils ont mis en place ce logiciel-là qui se vend quand même à fort prix par abonnement. C'est 500 000, 650 000 $ pour une activation ou plusieurs activations dans plusieurs pays. Tu sais, ça, il y a des forfaits comme ça qui existent pour eux autres. Et ça, ce logiciel-là fait en sorte que ça rentre dans le téléphone. Là, maintenant, la dernière version, c'est sans aucune interaction de l'opérateur du téléphone. Ça,
c'est c'est rien que tu reçois un appel téléphonique, là, genre un appel sur WhatsApp ou un appel sur Messenger ou quelque chose. Tu n'as même pas besoin de répondre. Puis ça installe le code malveillant sur ton cellulaire et c'est réglé.
Jeff Bezos, parce qu'il était à la tête du Washington Post là, dans l'affaire de Khashoggi, ben lui, il s'est fait servir ça à travers WhatsApp, justement, dans une vidéo piratée, truquée, excuse-moi. La dernière, c'est à travers iMessage des iPhones, qui a une faille qu'ils ont exploitée. C'est pour ça que je te parle qu'ils peuvent l'insérer dans le téléphone sans même appeler. Ils font juste mettre le numéro de téléphone dans le logiciel et va porter, déposer la partie malicieuse pour épier quelqu'un dans son téléphone, dans sa vie personnelle.
Et donc, ce que ce logiciel permet de faire, là, si j'ai bien compris, c'est allumer la caméra, allumer les micros, récupérer des mots de passe, c'est ça?
Lire les textes, écouter la conversation téléphonique, tout ce que tu fais avec ton téléphone peut être fait, reproduit à distance et évidemment documenté. Une des observations, surtout, c'est que c'est dans une quarantaine de pays à travers le monde, le Citizen Lab de Toronto a fait l'enquête quand même, là, 4 ans, et ils ont découvert que comment c'est large, cette portée-là, puis ça tombe, justement, c'est pas juste monsieur et madame tout le monde qui sont ciblés. Si on prend l'exemple au Mexique en 2017, ils ont trouvé que c'est des avocats, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, surtout, ceux et celles qui militent pour l'anticorruption, donc contre des fois le gouvernement en position, et des enquêtes internationales. Autrement dit, tous ceux qui peuvent aller contre le régime en place d'un pays, les États, souvent totalitaires, c'est eux autres qui ont l'argent puis le pouvoir et l'autorité d'aller chercher ce type de logiciel-là et de voir les opposants sur le terrain, comment ça se passe.
Et donc ça, c'est développé par une organisation qui s'appelle NSO Group, une organisation israélienne. Et à la base, on disait que ça devait être développé, ce logiciel-là, pour traquer les bandits, traquer les malfrats. Or, traitez-moi de cynique si vous voulez, mais il me semble qu'à la seconde qu'un logiciel comme ça existe et développé, c'est sûr que ça va être utilisé de manière malveillante. On dirait que c'était écrit dans le ciel, non?
Ben, c'est une autre raison, Paul Raphaël, que je te décris ça comme une arme cybernétique, parce que au même titre, tu vas prendre un fusil, tu l'achètes pour aller à la chasse, tu peux te faire d'autres choses avec le fusil.
C'est ça.
Dans tes temps libres.
Ah, c'est ça. C'est bon, on dit que c'est pour se défendre. Puis c'est la nouvelle façon de faire la guerre aussi, d'un sens. Là, tu sais, la guerre, ça s'est déjà passé dans des tranchées. Puis maintenant, ça se passe par pays interposés, puis via la technologie, l'information. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment un champ de bataille, cette application-là, littéralement.
Ben, c'est une arme dans le champ de bataille, Paul Raphaël, parce que oui, on est dans une guerre de l'information. Je te dis maintenant, là, on est dans une guerre de l'information, et ça, ça fait partie des moyens pour être capable d'aller vers les opposants. Puis autant que on veut profiter de la technologie dans notre société par l'automatisation de beaucoup de choses qui c'est supposé nous faciliter la vie. Moi, à ma jeunesse, j'entendais ça, là. Dans les années 2000, là, vous allez avoir des trottoirs flottants, des choses comme ça. On l'a pas vu, tu sais, on a de la misère avec des routes. Mais on est dans un contexte que les éléments dans la domotique qu'on appelle dans les maisons, c'est supposé nous faciliter la vie. Malgré cela, l'Internet des objets qui est appelé, ben, elle est imparfaite, puis de plus en plus, ça nous amène des problématiques. T'sais, juste faire une parenthèse comme ça, aux Olympiques de Tokyo, ben, il y a 2 ans, ils ont commencé à faire vraiment un balayage complet de la société, des appareils, exemple, juste les boîtes de câble de distribution chez les résidents, pour détecter s'ils avaient des failles, pour prévenir des cyberattaques contre les Jeux olympiques, alors qu'il y a déjà une couple de petits événements qui sont arrivés. La cérémonie prend fin comme on se parle, mais il reste toujours bien. C'est ça qui arrive. Autrement dit, ouais. Les Jeux olympiques sont là, ils planifient le bien-être des athlètes, mais en même temps, il faut qu'ils garantissent l'intégrité des résultats, que pas personne faut qu'ils viennent justement insérer des faux résultats, tout comme on a vu avec la recherche. Faut pas qu'ils viennent insérer des faux résultats dans la recherche à la COVID, des trucs médicaux du genre.
Je semblais peut-être pessimiste, mais en même temps, comme vous êtes notre expert en cybersécurité, votre avis est intéressant là-dessus. Mais d'un sens, là, avec les téléphones cellulaires, la domotique, l'Internet des objets, comme vous nous parliez, il est question dans plein de pays de même d'élections en ligne, puis de systèmes de vote pour voter en ligne. Est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine manière, condamné à ce que il y a des catastrophes technologiques majeures qui se produisent parce que la technologie prend tellement de place dans nos vies que c'est inévitable d'un sens que ça se produise?
Ben, ça donne bien que tu poses cette question-là, Paul Raphaël. Hier, avant midi, la compagnie Akamai, qui eux font de l'hébergement de matériel pour être distribué plus facilement, tu sais, comme les vidéos de chat puis la présente émission de radio, ça passe à travers de ça.
Ouais.
Ben, le serveur pour servir l'interprétation des requêtes, autrement dit, le terme technique, c'est le serveur DNS, c'est comme un gros bottin de l'Internet qui fait l'association adresse IP avec le nom du site, et ils ont tombé en panne par une erreur de configuration, encore une fois. Puis ça l'a mis à terre des grandes institutions financières puis un paquet d'autres services pendant quelques heures. Mais ça veut dire que, justement, c'est des points comme ça, névralgiques à travers l'Internet, que s'ils sont affectés, ça affecte le reste de notre vie électronique. Fait que oui, on a raison de croire que le pire peut arriver. Il y en a beaucoup qui ont emmené l'image du cyber Pearl Harbor qui peut arriver. Ben, je peux vous dire, moi, c'est arrivé l'année passée aux États-Unis avec l'affaire de SolarWinds et puis d'autres grosses compagnies comme ça qui se sont fait avoir, alors qu'ils disaient non, nous autres, on est tous corrects, dont le gouvernement américain lui-même s'est fait pogner là-dedans. Fait que c'est pour dire, la technologie est imparfaite, que je disais tantôt, ben, et c'est là qu'il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Fait que pour s'y préparer, il y a moyen de juste dire, ben, on va s'en servir puis améliorer quelque chose, mais si on l'a pas, on est-tu capable d'opérer pareil? Ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que la semaine dernière, justement, vendredi dernier, il y avait une évaluation des menaces et des risques envers la démocratie au Canada. Donc, en vue de la prochaine élection qui miroite ou qui plane au-dessus de nos têtes, et pour dire qu'il y a des acteurs de menace, donc des pays, des États-nations qui sont intéressés à venir déranger notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de faire, et tout ça pour leurs avantages, eux autres, économiques ou politiques.
Là, vous m'avez allumé, les gars, parce que, honnêtement, on parle de domotique, puis j'avais une conversation récemment avec quelqu'un qui se fait construire, puis qui dit, moi, là, ça va être 100% sur mon téléphone cellulaire. Ouais. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ma maison.
Les lumières.
Et moi, un peu follette comme je suis, j'ai t'es game, tu sais, je ferais pas ça. Pas peureux avec tout ce qui se passe. Est-ce que je suis un petit peu trop intense dans ma façon de voir les choses côté domotique ou faut pas s'inquiéter parce qu'il y a les mesures qui ont été prises en conséquence?
C'est intéressant, Pascal, parce que autant il y a l'aventure qui est le fun de jouer avec la technologie comme ça,
ben
puis
oui.
la mettre partout autour de nous, mais je te donne je te fais le défi, parce que je l'ai vécu récemment, perds ton téléphone. Qu'est-ce que tu perds en ne l'ayant pas 24 à 48 heures?
Beaucoup de choses.
Ben,
beaucoup d'accès, surtout.
Ben oui.
C'est ça, exactement. Parce que, tu sais, ils nous imposent de prendre un deuxième facteur d'authentification, exemple, pour sécuriser notre accès au lieu juste du mot de passe tout seul. Mais il y a le code où? Sur le téléphone. Fait que du jour au lendemain, t'as pas accès par rapport à ça. Puis après coup, ben les applications, tu sais, on voit souvent là, de plus en plus les véhicules automobiles qui ont une application qui va, que tu peux débarrer ton auto à distance, puis le faire partir, etc. Ben c'est souvent là le maillon faible. Ce sont ces applications-là qui ont des défauts de fabrication à l'intérieur, parce que on en reçoit des mises à jour tout le temps. Et de cette manière-là, c'est par là que peuvent être compromis justement ces merveilleuses technologies qui sont mises dans nos maisons, les véhicules ou n'importe où. Fait que là-dessus, je te rejoins, Pascal, en disant, tu sais, c'est mettre tous tes chips là à même place à la table pour gambler que tout va bien aller. Alors que tu peux dire, oui, j'en profite pendant que c'est là, si ça plante, ça plante. Tu sais, il y a une façon de faire l'approche. Personnellement, moi, j'en aurais pas de bébelle de même parce que c'est justement, quand j'arrive le soir, j'ai fini ma journée, ben je veux pas trouble-shooter ma maison tout le temps.
Donc, c'est pas trop épeurant, par contre, du côté de, mettons, le voisin qui décide, ah, moi, je vais débarrer ses affaires, je vais partir des gicleurs si jamais la personne s'en installe dans ma maison. T'sais. Ça, là-dessus, on n'a pas trop à s'inquiéter, mais c'est plutôt si on perd nos choses, on est un petit peu dans...
Ben, genre, dans le même sens aussi, parce qu'il s'agit, encore là, Pascal, faut que ça soit ce voisin-là qui a l'éveil technologique qui est capable de le faire, parce que c'est faisable. Comme présentement, les Wi-Fi des maisons, majorité des gens mettent un mot de passe de 8 caractères minimum, parce que les fabricants l'ont obligé. Puis ils mettent des mots de passe faciles. Fait qu'en deux temps ton mouvement, tu peux devenir le mot de passe. Puis là, tu rentres dans son Wi-Fi à la maison, puis bang, là, tu peux faire quelque chose. Mais est-ce que c'est tout le monde qui s'adonne à faire ce genre de jeu-là les samedis soirs, au lieu de regarder la télé ou regarder le feu d'or?
C'est un peu le même principe, dans le fond, avec Pegasus. Là, je veux rassurer certaines personnes qui nous disent là, comment on fait pour savoir si on est infecté. Puis si je ferme mon téléphone, est-ce que le logiciel se désinstalle? Pour l'instant, on n'est quand même pas à l'étape, je veux dire... que ça atteigne le grand public, là. Monsieur, madame, tout le monde, pour reprendre l'expression consacrée.
Exact. Pour ça, je mentionnais tantôt que c'est un logiciel qui est quand même très dispendieux à se procurer. Et si vous faites l'objet d'une insertion de ce logiciel-là dans votre téléphone, c'est parce que vous dérangez un peu dans la société, là. Pour s'en départir, c'est pas dur, c'est de scraper le téléphone, changer de numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone est visé. Et c'est la seule façon. Il n'y a pas d'antivirus qui est capable de le détecter. J'en ai vu passer quelques publicités à cet effet-là. Oui, on était les premiers à les détecter sur Internet. Plus ou moins vrai, parce que un des premiers buts de ce logiciel, c'est d'être furtif. Au même titre qu'il y a d'autres types de logiciels similaires qui se vendent sur le marché pour épier les enfants, traquer les enfants, les épouses, les époux, tu sais. Mais ceux-là sont une petite coche en dessous, mais ils sont détectables pareil. Sauf que l'autre, il est d'un niveau, justement, qui est fait pour ne pas être repéré. Et quand que les organismes internationaux comme Amnesty, Citizen Lab ont fait la recherche, les travaux, ben, ils savaient quoi regarder et chercher. Sans quoi, jamais personne ne saurait.
Et voilà. Puis là, fait qu'on scrape le cellulaire, puis on n'est plus capable de fermer lumière à la maison. Parce qu'on a installé de la domotique. Allez, merci, M. Waterhouse. C'est bien éclairant. Merci de votre temps ce matin.
Plaisir.
Bonne journée.
Bon week-end, la gang. Salut.
Au revoir, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Ouais, je suis un peu de ta gang, Pascal. Moi, je suis pas un grand fan de. J'ai un chum qui est bien geek, là, puis là, c'est genre, check ça, je suis capable de monter le chauffage avec ma montre, là. Ouais, moi, je suis capable de monter sur le thermostat.
La carte de crédit dans le téléphone, là. Ouais, moi j'ai jamais voulu aller là non plus.
Je l'ai mis, la carte de crédit dans le téléphone, là. Savez-vous combien de fois j'ai utilisé?
Zéro.
Je pense deux fois dans les deux dernières années.
Écoute ça.
Tu sais, j'y pense pas, c'est tant qu'à faire.
Je vous entends parler de domotique. Je travaille dans, l'Agence du revenu du Canada. On a des consignes strictes depuis le travail à la maison. Fermer Siri, Google Home, Alexa. Idéalement, ne pas avoir ces appareils dans notre environnement de travail, car ça écoute tout. Donc, même le gouvernement demande à leurs employés de faire attention. Ça veut dire qu'ils savent probablement des choses aussi. Il y a un risque, là, sinon ils vont pas s'ingérer dans ta maison en disant ton Google Home out.
Te souviens-tu qu'à un moment donné, il y avait eu un genre de cocktail avec les gens du bureau ici puis des clients puis ils nous avaient donné un Google Home mini machin là.
Ouais.
Moi je l'ai installé un bout de temps chez nous, après ça je l'ai enlevé, ben, je me disais je veux pas que personne m'écoute. Ils m'écouteront pas. Puis depuis que j'ai déménagé, je l'ai réinstallé parce que je pense que j'ai abandonné. Je me dis regarde, ils m'écouteront.
Ils connaissent toutes, fait que.
Ils m'écouteront, ils vont m'entendre parler de météo, faire comme maudit, il pleut, j'ai passé la matinée à la radio à dire qu'il pleuvrait pas.
Mais vois-tu, moi je suis pas capable.
Ouais,
je l'ai donné à ma sœur, puis l'autre que j'avais reçu en cadeau, je l'ai revendu.
Je
leur ai dit arrêtez, j'en veux pas. Mais si j'ai quelque chose, je vais prendre mon bras, puis je vais aller peser.
C'est hot, ça, vendre ton bras.
Faut avoir besoin d'argent pour vendre ça.
Combien ça coûte?
Je vais prendre mon bras, puis je vais aller cliquer sur ma musique, ou tu sais.
Mais dis-moi, là, je vais te prêter de l'argent parce que ça me dérange pas.
Non, je veux que tu m'adonnes.
Avant que tu vendes ton bras.
Je veux rien te devoir.
Mais je vais te le donner. Avant que tu vendes ton bras. Quand tu seras rendu à l'étape de vendre ton bras, appelle-moi avant.
Parle-nous-en.
Appelle-moi avant. Dis, OK, Siri, appelle Paul.
Alexa et Google ne vous écoutent pas, voyons. Ben, faut savoir que oui, parce qu'en plus, du côté des États-Unis, il y a eu un procès récemment sur quelque chose qui s'était passé entre les murs privés d'une maison, là, entre les quatre murs. Et ils ont réussi, je ne sais pas comment, mais à avoir les accès des conversations audio là, qui s'étaient faites dans la maison à élucider le meurtre en question ou l'agression en question. Ouais. Je n'ai pas souvenir c'était quoi exactement. Mais c'est pas dans la théorie du complot, là. Zéro pis une barre, là. C'est vraiment le cas. C'est pas un faux journaliste scientifique ou expert en technologie qui a fait une capsule YouTube, là, ce qu'on a consulté. Là.
Ouais, il y a un auditeur, il dit les gens qui connaissent pas la sécurité doivent percevoir le message de M. Waterhouse comme ben épeurant. Mm. C'est assez dangereux. Faut savoir que les protocoles de sécurité des cartes de crédit, comme dans Apple Wallet, sont très, très poussés. Ben, tu sais, monsieur Waterhouse, quand même, travaillé au ministère de la Défense, tu sais, puis tu travailles au SCRS aussi. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je suis un expert, là, tu sais, on parle pas quand même à n'importe qui, là. Mais, libre à chacun de choisir comment être ce message-là. Ah oui. En passant, Pegasus, là, je le répète, là, cette application-là n'a pas été utilisée sur vous. Je connais pas chaque individu à qui je parle présentement, mais je suis prêt à dire que ça n'a pas été utilisé sur vous. À moins que vous soyez un espion du CRS qui a eu à voir avec des choses qui sont passées au Moyen-Orient, mettons.
Et que vous tripiez sur le 93 et soyez à l'écoute en ce moment.
Mettons. Tu comprends? Fait que, tu sais, on n'est pas rendu à l'étape de grand public ou autre. Mais toutes les personnes qui nous écoutaient présentement, qui connaissaient une personne qui s'est faite frauder, je pense à notre chum Jeff Blanchette, Pascal, qui s'était fait frauder son cellulaire. Ce que les malfrats avaient fait, c'est qu'ils ont appelé sa compagnie de cellulaire en se faisant passer pour lui, puis ils ont fait changer le numéro. Okay? Puis ils ont réussi à faire changer le numéro de cellulaire. Donc, ils ont réussi grâce à ça. T'sais, ils ont pris un cellulaire, ils ont fait mettre le numéro de Jeff, je vulgarise, mais le numéro de Jeff sur un autre cellulaire. Puis après ça, ben appelle à la banque, appelle à la caisse pop, appelle les télécoms, appelle tout le monde en disant « Ah, ben là, voici, je voudrais faire un retrait, je voudrais si ça. OK, on va vérifier votre identité, monsieur. On vous envoie un code de vérification par texto. Parfait. » Il y avait leur cellulaire dans les mains. Le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comprends? Mm. Donc, en faisant ça, il s'est retrouvé avec un prêt à son nom, puis son cellulaire qui marche plus, puis plus accès à ses comptes. Tous les comptes sont gelés. C'était du vrai de vrai trouble, là. Ça a passé par la police puis par les institutions bancaires. Puis
ça a été long, là.
Ça a été du chiard pour le vrai, là, ce qui est arrivé à Jeff. Je me
souviens, c'est un patient côté administration puis tout taponnage de paperasse.
C'est là. Ça.
Puis, parce que nous autres, moi, j'aurais pété une fuse après 2 jours.
Puis aussi, mettons, lui et sa blonde, ils ont c'est pas des millionnaires, là, tu sais, mais je veux dire, ils ont...
Dans la classe moyenne.
Ils sont dans la classe moyenne, mais tu sais, ils ont été capables de s'organiser financièrement. Hein, puis bon, mais pendant un bout de temps, là... Je sais pas c'est quoi votre situation financière à vous, mais mettons que je vous dis que pendant un mois, vous avez pas de revenus, là. Vous avez accès à aucun argent. Pas juste de revenus, pas d'argent.
Rien.
C'est la blonde ou le chum qui paye 100% tout pendant un mois. Je sais que les beaux principes disent qu'il faudrait qu'on ait un coussin, là, mais c'est pas le cas de tout le monde, on se cachera pas, là. Ça fait que c'est quand même des vrais risques. Moi, vous connaissez ma philosophie par rapport à ça. J'ai lâché prise. Je m'inquiète plus de ça. Si un jour je me fais frauder, ben je réglerai ça dans le temps comme dans le temps, mais tu sais, je refuse de...
Comme faire tes feuilles de temps, puis tes
ouais, c'est ça, factures, tout en même temps, appeler le dentiste aussi.
Non, son assurance aussi, savoir qu'est-ce que...
Tout en même temps, ah, tout régler ça en même journée.
Là, vous me stressez.
C'est toi qui choisis d'aller en pause ou pas.
Là, vous nommez toutes les affaires de que j'ai procrastinées, là, mais en tout cas...
Oh, on n'a pas fini, on va continuer.
Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait...
Un segment comme celui-là a demandé beaucoup d'efforts. On va se reposer un peu.